Bonjour, chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone. Je vous remercie de prendre part au grand titre du jour en ce jeudi 28 juillet. Veuillez noter que les grands titres du jour s'adressent aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi du lundi au vendredi sur les ondes du 92,7 FM et sur Décentrer le discours. Aujourd'hui, il est question de la réforme électorale au Canada, du monde en guerre selon le pape, du statut médical des trans, de la saga entourant l'Université Trinity Western, des usines de bébés, de la sédentarité, de Mike Ward qui refile la facture à ses admirateurs et bien sûr, mesdames et messieurs, de la bonne nouvelle du jour. Débutons par cet article qui a été publié sur la plateforme du Devoir et qui s'intitule « L'exemple des référendums néo-zélandais sert de munition à l'opposition ». Et oui, c'est un article intéressant parce que, comme vous le savez, j'en ai parlé cette semaine, le gouvernement Trudeau veut réformer la loi électorale pour qu'on puisse avoir une meilleure représentativité de nos élus au Parlement. Maintenant, ils font des consultations. Ils ont consulté la Nouvelle-Zélande, qui, elle, a procédé par référendum pour instaurer justement le vote proportionnel mixte, où est-ce que des députés élus localement et d'autres qui sont pigés dans une liste sont additionnés pour générer une meilleure représentativité. Évidemment, il y a des aspects positifs à ça. Et il y a d'autres aspects qui sont contestés par l'opposition. Je vous invite à lire cet article-là qui est intéressant. Et moi, je suis en faveur des référendums, je suis en faveur des consultations populaires parce que ça permet, spécialement aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi, de s'exprimer, d'avoir une plateforme pour être entendu et pour débattre de leur vision des choses. Ça vaut la peine, mesdames et messieurs. Il y a un coût à la démocratie, mais il y a aussi un résultat. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une saine gestion des finances publiques, parce qu'il y a des dépenses comme ça qui sont nécessaires pour que la nation puisse aller de l'avant et favoriser la liberté de conscience, la liberté d'expression et la liberté de religion, autant pour les gens de foi théiste que pour les gens de foi athéiste. Je vois que le temps file. Déjà, j'ai beaucoup de sujets à vous présenter. Alors, on va passer à un autre sujet. Dans un tout autre ordre d'idée, on parle de santé maintenant. Eh bien, l'identité transgenre n'est plus une maladie mentale. Eh bien, c'est sûr, parce que ce que nous dit le Devoir, c'est que selon The Lancet Psychiatry, eh bien, l'identité transgenre n'est plus considérée comme une maladie mentale. Mais ce qui arrive au travers de tout ça, c'est que le lobby LGBT met de la pression sur l'Organisation mondiale de la santé pour que ça soit changé dans leurs documents. Parce que l'Organisation mondiale de la santé classe encore le fait que d'être transgenre fait partie des maladies. Et donc, ce que le Devoir nous dit, c'est ceci. L'Organisation mondiale de la santé est sous pression pour modifier sa classification. Et donc, ça nous rappelle encore une fois que le lobby LGBT n'est pas simplement là pour défendre des droits ou pour offrir une reconnaissance, mais est là pour donner un statut, un niveau social à des gens qui pratiquent une autre forme de sexualité. Mais je suis certain qu'il y en a parmi vous qui allez me dire, « Écoute, Éric, toi, tu ne crois pas au vivre et laisser vivre? » Oui, ça serait intéressant si ça fonctionne dans les deux sens. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas dans les deux sens. Et c'est exactement ce que Radio-Canada va nous informer. J'ai deux articles à vous proposer qui touchent le même sujet. Et vous allez voir, ça fait suite avec l'idée que le lobby LGBT est vraiment un lobby puissant pour colorer la culture. Non seulement la culture québécoise et la culture canadienne, mais pour colorer toute culture. Mais ça commence avec des initiatives puis des combats comme ils mènent en ce moment, en mettant de la pression sur l'Organisation mondiale de la santé et en mettant de la pression sur l'Université Trinity Western. Voici ce que nous dit Radio-Canada dans un article intitulé « Les futurs diplômés de l'Université Trinity Western pourront pratiquer le droit en Nouvelle-Écosse ». La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse statue que les futurs diplômés de l'Université Trinity Western pourront pratiquer le droit dans la province. Il s'agit d'une victoire importante pour la petite université chrétienne de Langley en Colombie-Britannique. Ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que il y a des membres du barreau de la Nouvelle-Écosse qui voulaient empêcher les futurs diplômés en droit de Trinity Western de pratiquer dans leur province. Pourquoi? Parce que les étudiants et les membres du personnel du Trinity Western doivent s'engager à ne pas avoir de relations sexuelles qui violent le caractère sacré du mariage entre un homme et une femme. Et ce que le barreau de la Nouvelle-Écosse soutenait, c'est que cette clause est discriminatoire envers les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles ou transgenres. Mais ce qui arrive, c'est que l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, ainsi que Terre-Neuve et Labrador, eux ont accepté que ces gens-là viennent pratiquer le droit dans leur province. Et là, vous allez me dire, oui, mais Éric, pourquoi ils les empêcheraient? Il y a quand même dans notre charte la liberté de religion, la liberté de conscience, la liberté d'expression. Oui, mais vous allez voir dans un autre article qui a été publié le mercredi 29 juin 2016, qui est également sur la plateforme de Radio-Canada, il y a quelque chose de dangereux qui pourrait survenir, spécialement si on adopte la charte du Parti québécois. Voici ce que nous dit Radio-Canada dans un article intitulé « Nouveau revers juridique pour une université qui interdit les relations homosexuelles ». Voici ce qui est écrit. Dans sa décision rendue mercredi, la Cour d'appel indique qu'il existe un conflit entre la liberté de religion et l'égalité, deux droits protégés par la Charte des droits et libertés canadiennes. Elle a toutefois conclu que le choix du barreau de ne pas accréditer l'Université Trinity Western était en effet une conclusion raisonnable. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que d'une part en Ontario et en Colombie-Britannique, on conteste que ces étudiants qui vont sortir du Western Trinity University ont dû s'engager à ne pas avoir de relations en dehors du mariage, et le mariage étant défini comme l'union d'un homme et d'une femme. Et ce qu'ils vont dire, c'est que, justement, c'est une discrimination à l'égard des gens qui s'identifient au lobby LGBT. Mais là, ce qui est grave, mesdames et messieurs, écoutez-moi bien, c'est qu'il y a deux droits qui sont en train de se confronter. Puis on est en train de dire en Ontario que c'est raisonnable de mettre le droit à l'égalité de la communauté LGBT au-dessus de la liberté de religion. Écoutez, c'est exactement dans cette direction-là que s'en allait la charte du Parti québécois, qui a été grandement appuyée par la CAQ en passant. Et ça, ça veut dire qu'au Québec, nos instituts bibliques qui auraient formé des gens pour travailler dans la société n'auraient pas pu exercer leur métier à cause de cela. Et là, ici, on parle d'une université privée chrétienne qui veut former des juristes, des avocats, mais qui ne pourront pas exercer leur vocation en Ontario. Et en ce moment, c'est en litige en Colombie-Britannique. Voyez-vous comment c'est important d'être renseigné d'une part, de faire de la pression sur nos politiciens, parce que ce sont nos libertés, mesdames et messieurs, qui sont remises en question. Je vois que le temps file. Je vais aller rapidement pour les autres sujets. Usine à bébés indienne, Québec perd sa première bataille. Voici ce qu'on nous dit dans les pages de la presse. Québec vient de perdre sa première bataille judiciaire contre l'utilisation d'usines à bébés indiennes par des couples d'ici, alors que la justice presse de clarifier les règles qui doivent régir cette pratique. Le Code civil prévoit qu'aucune entente passée dans ce domaine n'est valide. La mère porteuse pourrait garder l'enfant à l'issue de la grossesse et le couple pourrait changer d'avis la veille de l'accouchement. Toute compensation financière est interdite. Selon la juge Primo, tant et aussi longtemps qu'au Québec on ne clarifiera pas les choses, tant qu'on n'aura pas le débat, le tourisme procréatif va être une option intéressante pour les Québécois et les Québécoises. Évidemment, parce que la loi n'est pas suffisamment claire, eh bien, les gens vont à l'extérieur pour aller s'acheter, si on veut, un bébé par une mère porteuse. Et là, on se tourne vers l'Inde parce que c'est là que c'est le plus facile. Deux articles intéressants que je vous invite à lire. La sédentarité presque aussi dangereuse que le tabagiste, c'est sur la presse. Et l'inactivité physique coûte, écoutez bien ça, mesdames et messieurs, coûte 89 milliards de dollars par année. Aux Canadiens. 89 milliards de dollars. C'est énorme, mesdames et messieurs. On peut s'en payer des stades olympiques avec ça. On peut s'en payer, mesdames et messieurs, des piscines, des terrains de soccer. 89 milliards, ça. Ça veut dire que c'est 89 fois 1000 millions. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent parce que, savez-vous quoi? Ça représente là, 1 780 000 personnes qui gagnent 50 000 dans une année. Imaginez, presque toute la ville de Montréal, je ne parle pas du Grand Montréal ou je ne parle pas des petites municipalités qui sont en dehors de Montréal sur l'île de Montréal. Je parle de la ville de Montréal qui est dirigée par M. Coderre. Là. Eh bien, presque tous les habitants de cette ville pourraient recevoir 50 000 dans une année si on économisait ces 89 milliards de dollars-là. Réalisez-vous, c'est de l'argent, mesdames et messieurs. Le monde est en guerre, mais pas de religion, dit le pape François. C'est ce qu'on peut lire sur la plateforme du Journal de Montréal. Voici ce qu'il dit. « Le monde est en guerre parce qu'il a perdu la paix », a dit le souverain pontife aux journalistes. « Mais quand je parle de guerre, je parle d'une guerre d'intérêts, d'argent, de ressources, pas de religion. Toutes les religions veulent la paix, ce sont les autres qui veulent la guerre », a poursuivi le pape. Et puis, c'est intéressant parce que ce qu'il a dit, c'est que le monde est en guerre fragmentaire. Et c'est vrai, c'est peut-être pas la même forme de guerre de ce qu'on a connu, par exemple, en 39-45 ou même en 1914, mais il reste qu'on n'est pas en paix. On est sur le qui-vive et pourtant, on est appelé à vivre en paix. Mais que voulez-vous? Le cœur humain est ce qu'il est. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir se battre pour conserver la paix. Il y en a un qui ne doit pas être en paix présentement, c'est Mike Ward. Parce qu'on parle de lui, certains vont l'appuyer, d'autres vont le dénigrer. Et bien entendu, ça concerne cette cause qui avait été devant les tribunaux et qui risque de s'en aller en appel, cette cause contre Jérémy Gabriel, qui l'a insulté publiquement, qui a ri de lui, qui a même souhaité sa mort, en riant bien entendu. Eh bien, ce que nous dit Lise Ravary, c'est que Mike Ward refile la facture à ses fans. Voici ce qu'on nous dit sur le Journal de Montréal. Mike Ward aurait récolté 20 000 en 24 heures alors que ses tournées rapportent des millions. Le Québec donne moins aux œuvres de charité que toutes les autres provinces canadiennes. En 2015, les Canadiens ont donné en moyenne 1574 $. Le Québec est arrivé bon dernier avec des dons moyens de 735 $. Ça, mesdames et messieurs, ça nous dit que les Québécois donnent la moitié moins que la moyenne des Canadiens. Mais écoutez bien ce que nous dit Lise Ravary par la suite. Mais quand vient le temps de soutenir la lutte d'un riche humoriste pour la liberté d'intimider publiquement un enfant handicapé, les bourses se délient. Quelque chose ne tourne pas rond. C'est vrai, mesdames et messieurs. Les Québécois ne sont pas généreux pour donner aux œuvres caritatives. Mais quand c'est le temps de soutenir un riche humoriste, les gens sont prêts à signer leur chèque. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que soulève Lise Ravary vers la fin de son article. Voici ce qu'elle dit. Le lendemain de son triomphe aux Oliviers, Mike Ward avait annoncé la création d'un fonds pour défendre la liberté d'expression en humour. « Je n'ai pas voulu faire une collecte de fonds pour moi » dans son procès face à Jérémy Gabriel. « Je suis rendu à un point dans ma carrière où j'ai les moyens de me défendre », a-t-il dit au journal. Mais si un jeune humoriste comme Guillaume Wagner ou Mariana Mazza se faisait poursuivre, ce serait une autre chose. En d'autres mots, ce qu'il avait dit, c'est qu'il ne fera pas de collecte pour subventionner son procès. Finalement, c'est ce qu'il a fait. Eh bien, on va terminer par la bonne nouvelle du jour. Électrisante Eugénie. Eh oui, mesdames et messieurs, Eugénie Bouchard a, selon le Journal de Montréal, éliminé la 10e joueuse mondiale, Dominika Cibulkova, mercredi soir sur le central du stade Uniprix. Bouchard n'a pas mis de temps à obtenir son billet pour le troisième tour, le premier de sa carrière à la Coupe Rogers. En 1h et 15 petites minutes, la rencontre était bouclée 6-2 et 6-0. Félicitations, Mme Bouchard, c'est tout un exploit. Sur ce, mesdames et messieurs, je vois que le temps file. Je vous invite à consulter les articles qui ont été cités lors de cette émission sur ma page Décentrer le discours et également sur ma page Facebook via le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Puisque c'est le temps de clore cette émission, je vous dis bonne lecture, bonne réflexion et bons échanges avec les gens de votre entourage. Je vous dis également à demain!